C'est là la preuve de la vraie onction. Voilà donc la vie de sainteté telle que la donne le Dieu trois fois saint, le Père qui sanctifie, le Fils en qui nous sommes, le Saint-Esprit qui habite en nous et par qui nous demeurons en Christ, et Christ en nous. Méditons sur la divine onction, elle nous vient du Dieu saint. Il n'y en a point de semblable. C'est la volonté de Dieu pour nous rendre participants de la sainteté de Christ. L'onction reçue de lui jour après jour, demeurant en nous, nous enseignant toutes choses, nous enseignant surtout à demeurer en Christ, doit reposer sur nous chaque jour. Son action doit pénétrer notre vie entière, le parfum de l'onction doit remplir la maison. Dieu soit béni, cela est possible. Gloire à son nom. Soyez saints, car je suis saint. Ô toi, qui es le saint. Je viens à toi pour que tu renouvelles mon onction. Ô Père, accorde-moi la grâce de chanter, tu oins ma tête d'huile. Je suis oint d'une huile fraîche. Je viens te confesser avec humiliation que j'ai douloureusement contristé et déshonoré ton esprit. Que deux fois l'esprit charnel a usurpé ta place dans le culte que je te dois. Que deux fois la volonté charnelle a cherché à faire son œuvre. Ô mon Père, que ta lumière paraisse, me pénètre et me convainque profondément de ces choses. Que ton jugement vienne sur tout ce qui en moi est encore volonté et action charnelle. Père Saint, accorde-moi la grâce, selon les richesses de ta gloire, d'être fortifié maintenant avec puissance, par ton esprit dans mon âme intérieure. Fortifie ma foi en Christ, en vue d'une pleine mesure de son onction. Oh ! Enseigne-moi à attendre de toi, et fais-moi recevoir chaque jour cette grâce d'être arrosé d'une huile fraîche. Ô mon Père, amène-moi avec tous tes enfants à voir ceci, c'est que pour demeurer en Christ nous devons avoir reçu l'onction qui demeure. Père, nous voudrions marcher humblement dans la dépendance de la foi, comptant pour avancer sur l'onction intérieure, qui demeure éternellement. Que nous soyons pour tous la parfaite odeur de Christ. Amen. Saint en Christ, 31e jour, la sainteté et le ciel, puis donc que tout doit se dissoudre, qu'elle ne devez-vous pas être par une conduite sainte et pieuse. 2 Pierre 3, 11. Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, Hébreux 12, 14. Que le Saint se sanctifie encore. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Apocalypse 22, 11,21. Ô mon frère, nous sommes en route pour le ciel. Nous sommes appelés à voir le Saint des Saints face à face. Le mystère infini de sainteté, la gloire du Dieu invisible, devant lequel les séraphins voilent leur face, doit nous être révélé. Nous verrons le Dieu trois fois saint, le Dieu vivant lui-même. Oh ! Quelle grâce infinie, quelle ineffable félicité ! Nous verrons Dieu. Nous verrons Dieu, le Saint. Tout notre apprentissage ici-bas, dans la vie de sainteté, n'est que la préparation à cette rencontre et à cette vue. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Recherchez la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Depuis le temps où Dieu dit à Israël, « Soyez saints car je suis saint », la sainteté a été révélée comme le seul terrain sur lequel Dieu et son peuple puissent se rencontrer, le seul attribut par lequel ils puissent devenir semblables à Dieu, la seule préparation pour le temps où ils n'auraient plus besoin de les tenir éloignés, mais où il les admettrait à la pleine participation de sa gloire. Dans sa seconde épître, Pierre rappelle aux croyants que la venue du jour du Seigneur sera précédée et accompagnée des plus redoutables catastrophes, la destruction des cieux et de la terre. Et il les supplie de veiller à être trouvés sans tâche, irrépréhensibles en sa présence. Il leur demande de réfléchir et de dire leurs sentiments profonds de tout ce que la venue du Seigneur sera et apportera, ce que doit être la vie de ceux qui s'attendaient à ces choses, puis donc que tout doit se dissoudre, qu'elle ne devez-vous pas être par une conduite sainte et pieuse. La sainteté doit en être le sceau distinctif, l'universel caractère. Au terme de notre étude, sur l'appel de Dieu à la sainteté, nous reprenons la question de Pierre, et à la lumière de tout ce que Dieu nous a révélé de sa sainteté, et de tout ce qui doit encore nous être révélé, demandons-nous à nous-mêmes, quels ne devons-nous pas être en sainte conduite et piété. Remarquez en premier lieu la signification de la question. Dans l'original grec, les mots conduite et piété sont au pluriel. Un commentateur, Alford, Traduit en sainte conduite et piété, le pluriel indiquant la sainte conduite et la piété sous toutes leurs formes. Pierre insiste pour une vie de sainteté pénétrant l'homme tout entier, notre conduite envers les hommes et nos rapports envers Dieu. La vraie sainteté ne peut être moins que cela. La sainteté doit être le caractère unique et universel de notre vie chrétienne. La sainteté est l'attribut central de Dieu, la seule expression possible de la divine perfection, l'attribut de tous les attributs, la seule épithète par laquelle lui-même, comme Rédempteur et Père, son Fils et son Esprit, son jour, sa maison, sa loi, ses serviteurs, son peuple, son nom, soit désigné et reconnu. Toujours et en tout, dans le jugement comme dans la miséricorde, dans son élévation et dans son abaissement, quand il se cache ou quand il se révèle, toujours et en toute chose, Dieu est le Saint. La parole nous apprend que pour être vrai, agréable à Dieu, le règne de la sainteté doit être absolu dans toute notre conduite. Il ne doit y avoir ni un moment de la journée, ni une relation dans la vie, ni aucune action extérieure, ni un repli caché du cœur, ni rien qui nous appartienne, dans notre culte ou nos affaires, qui ne soit saint. La sainteté qui nous vient de l'onction de l'Esprit doit être réelle, si nous voulons être saints. Il en doit être ainsi que Pierre le dit de l'appel de Dieu, saint en toute votre conduite, saint en toute conduite et piété. Pour employer le langage significatif du Saint-Esprit, tout doit être fait d'une manière digne de saint. Romains 16, 2 ou comme il convient à des saints. Éphésiens 5, 3 remarquez l'insistance de cette question de l'apôtre Pierre dit, puis donc que vous attendez ces choses. Puis donc que tout se dissoudrait qu'elles, ne devez-vous pas être. Oui, réfléchissons à ce que cela signifie. Nous avons vu à travers tout le livre de la Révélation la grâce merveilleuse et la patience avec laquelle Dieu nous a fait connaître sa sainteté, pour nous en rendre participants et tout cela comme préparation à ce qui doit encore arriver. Nous avons entendu Dieu, le Saint, nous appelant, plaidant avec nous, nous commandant d'être saints comme il est saint. Et nous sommes assurés de le rencontrer, de le voir et de demeurer pendant toute l'éternité dans la lumière, saint comme il est saint. Ceci n'est point un rêve, mais une vivante réalité, vers laquelle nous regardons comme vers la seule chose, pour laquelle il vaille la peine de vivre. Nous comptons sur l'amour éternel pour nous accueillir, et avec une confiance filiale nous venons à lui comme ses saints, et ses bien-aimés en disant, Père Saint. Nous avons appris à connaître Jésus, le Saint de Dieu, comme notre sanctification. Nous vivons en lui jour, après jour comme saints en Christ. Nous marchons dans cette volonté de Dieu, comme lui-même y a marché, et il nous en rend capables. Nous regardons avec joie au moment où nous lui serons réunis, le jour où il viendra pour être glorifié dans ses saints, et admiré dans tous ceux qui ont cru. Nous avons au-dedans de nous le Saint-Esprit, la sainteté de Dieu en Christ, descend sur nous et fait de nous sa demeure comme art de notre héritage. Lui, l'Esprit de sainteté, transforme silencieusement tout en nous, sanctifie notre esprit, notre âme, notre corps, afin de les rendre irréprochables, pour le jour de sa venue, et de nous préparer pour l'héritage des saints dans la lumière. Nous attendons avec impatience le temps où il aura achevé son œuvre, alors que le corps de Christ sera rendu parfait et que l'épouse, toute remplie et débordante de la vie et de la gloire de l'Esprit, sera assise avec lui sur son trône, comme lui s'est assis avec le Père sur son trône. Pendant l'éternité, nous adorerons le mystère du Dieu trois fois saint. Même ici-bas ce mystère remplit notre âme d'admiration et d'une sainte joie, mais quand l'œuvre de notre sanctification sera accomplie, oh! Avec quelle joie n'entonnerons-nous pas le cantique « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui était, qui sera ». Comme préparation à ces faits glorieux, les événements les plus saisissants doivent avoir lieu. Le Seigneur Jésus lui-même apparaîtra, la puissance du péché et du monde sera détruite, l'économie actuelle prendra fin, la puissance de l'Esprit triomphera dans toute la création, il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. La sainteté se développera dans la félicité et la gloire d'une communion toujours croissante avec le Dieu trois fois saint. Que celui qui est saint se sanctifie encore? Certainement il n'y a plus qu'à poser cette question devant tout croyant, afin qu'il en reconnaisse la force, puis donc, mes bien-aimés, que toutes ces choses doivent arriver, qu'elles ne devez-vous pas être par une conduite sainte et pieuse. Remarquez maintenant l'importance de notre question, qu'elles ne devez-vous pas être. Mais une pareille question, ne serait-elle pas superflue? Se peut-il que les saints de Dieu sanctifiés en Christ, ayant en eux l'esprit de sainteté, marchant à la rencontre du Saint dans sa gloire et dans son amour, se peut-il qu'ils aient besoin de se poser cette question? Hélas! Hélas, il en était ainsi au temps de Pierre, et il en est encore ainsi aujourd'hui. Hélas, que de chrétiens à qui ce mot de saint paraît étrange et inintelligible, quoique ce soit le nom que le Père, dans le Nouveau Testament, aime à donner à ses enfants. Que de chrétiens pour lesquels ce mot a peu d'attrait parce qu'à leurs yeux, il n'a jamais été l'expression d'une vie possible et inexprimablement bénie. Et encore une fois, hélas, que de chrétiens, même parmi les ouvriers, au service du Maître, pour qui une conduite sainte et pieuse est encore un secret et un fardeau, parce qu'ils n'ont pas encore consenti à tout abandonner, leur volonté et leur œuvre, afin que le Saint puisse tout prendre et le remplir de son Saint-Esprit. Et enfin, que de chrétiens parmi ceux qui connaissent la puissance d'une vie sainte, se lamentent de leurs infidélités et de leur incrédulité, en voyant combien plus riche et plus puissante aurait pu être leur entrée dans cette vie de sainteté, et combien plus complète aurait pu être la bénédiction qu'ils sont trop faibles pour communiquer aux autres? Oh, la question est bien nécessaire, en effet. Chacun de nous ne se la posera-t-il pas à nouveau? Ne la serrera-t-il pas de près? N'y répondra-t-il pas par le Saint-Esprit, dont elle procède et ne la passera-t-il pas à ses frères, afin que les uns et les autres nous puissions nous aider dans la foi, et vivre en donnant à Dieu la réponse qu'il attend de nous? Puis donc que tout doit se dissoudre, qu'elle ne devons-nous pas être par une conduite sainte et pieuse. Frères, le temps est court. Le monde passe avec sa convoitise. Les âmes païennes périssent. Les chrétiens dorment. Satan seul serait-il actif et puissant? Les saints de Dieu sont l'espérance de l'Église et du monde. Ce sont eux que le Seigneur peut employer. Quels ne devons-nous pas être par une conduite sainte et pieuse? Ne chercherons-nous pas à être tels que le Père le commande, saint comme il est saint? Ne nous livrerons-nous pas comme tout de nouveau et sans réserve, à lui qui est notre sanctification et à son Saint-Esprit pour nous rendre saints dans toute notre conduite? Oh, à la pensée de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, de sa gloire future, de la fin qui s'approche, des besoins de l'Église et du monde, ne nous livrerons-nous pas à lui pour qu'il nous rende saints, comme il est saint, afin que nous recevions de lui une puissance de bénédiction pour tout croyant que nous rencontrons, lui portant le message de la volonté de Dieu à notre égard, étant lumière et moyen de salut pour le monde qui périt. Je termine par les paroles du saint volume, celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. » Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous, les saints. Amen. Soyez saints, car je suis saint. Ô Dieu très saint, qui nous a appelés à être saints, nous avons entendu ta voix nous demander, quelle ne devez-vous pas être, par une conduite sainte et pieuse. De toute notre âme, nous te répondons avec contrition et humilité, Père Saint. Oh ! Nous devrions être si différents de ceux que nous avons été, en foi, en amour, en zèle, en piété, en humilité qui ressemble à celle de Christ et en sainteté, ô Père. Nous n'avons pas été devant toi, devant le monde, ce que nous aurions dû et pu être. Père Saint, nous te supplions de produire un réveil de vraie sainteté, en nous dans ton Église. Agis sur les ministres de ta parole, afin qu'en prévision de ton retour ils remettent en lumière, et fassent retentir la question, quels ne devez-vous pas être? Fais peser sur eux et sur tout ton peuple, le lourd fardeau de la mondanité, du manque de sainteté qui les entoure, en sorte qu'ils ne cessent de crier à toi? Accorde-leur une vue si évidente, si claire du chemin de la sainteté, le chemin nouveau et vivant en Christ, qu'ils puissent prêcher, Christ, notre sanctification, avec la puissance et la joie du Saint-Esprit, avec la voix confiante et triomphante de témoins qui se réjouissent de ce que tu as fait pour eux? Ô Dieu, ôte le propre de ton peuple, fais disparaître le reproche qu'on lui adresse, hélas! Avec justice, c'est que sa profession ne le rend pas plus humble, pas plus saint, pas plus aimant, pas plus céleste que d'autres. Nous courbons humblement le genou devant toi, ô Père, pour que tu nous accordes selon les richesses de ta gloire d'être puissamment fortifiés dans l'homme intérieur, par l'esprit de sainteté. Amen. Saint en Christ. Nota. La sainteté en tant que droit de propriété. Dans un petit livre intitulé « Comment les écrivains bibliques ont compris la sainteté ?» par Joseph Agarbeil, l'auteur s'est appliqué à établir que la sainteté indique notre relation avec Dieu et le droit de propriétaire qu'il possède sur nous. Ce qui était vrai pour l'individu était vrai pour toute la nation israélite. Lorsque Dieu déclare qu'elle doit être sainte, il affirme par là qu'elle doit lui être consacrée sans réserve. Les prêtres reçoivent l'ordre de se sanctifier et cet ordre ils l'exécutent en se mettant à la disposition de Dieu ou en se séparant de tout ce qui n'était pas en harmonie avec le service de Dieu. Lorsque Dieu affirme sa propre sainteté et qu'il nous veut saints comme il est saint, il donne une merveilleuse révélation de sa propre nature et de ce que doit être la nôtre. Une telle proclamation des droits de Dieu sur nous inaugura une ère nouvelle dans la vie d'Aaron et dans sa conception de Dieu, ce qui revient à dire que Dieu était saint pour Aaron et pour Israël, et que, étant la propriété de Dieu, devait vivre saintement. Les hommes sanctifiaient Dieu lorsqu'ils lui rendaient le culte qu'il attendait d'eux. Jéhovah était le saint d'Israël, et Israël était saint consacré à l'Éternel. Cette relation mutuelle était fondée sur le fait que l'Éternel affirmait qu'Israël lui appartenait et que lui l'Éternel voulait appartenir à Israël, être le Dieu d'Israël. En affirmant ainsi ses droits, Dieu manifestait sa nature, les êtres intelligents et ceux qu'il possédait lui appartenaient. Cette affirmation de la sainteté de Dieu et de ses droits n'est pas un fait accidentel, mais elle découle de l'essence même de Dieu. Dans le Nouveau Testament, notre conception de la sainteté de Dieu grandit au fur et à mesure que nous prenons mieux conscience des droits de Dieu sur nous et du fait que ces droits découlent de la nature même de Dieu. La personne du Fils incarné de Dieu nous présente l'idée biblique de la sainteté dans sa parfaite réalisation. Jésus entre absolument dans les pensées de Dieu, il réalise ses plans. En Christ, nous constatons la réalisation de la parfaite volonté de Dieu. Celui qui m'a vu a vu mon Père. Il est le Saint de Dieu. Les disciples du Christ sont appelés des saints. En appelant ainsi ses enfants, Dieu proclame sa volonté, qu'il soit saint comme il est saint. Dans de nombreux passages, le mot saint signifie que l'homme doit vivre en ayant toujours Dieu pour seul et unique but. C'est là ce qui constitue la sainteté du peuple de Dieu. Il n'y a pas de bonheur en dehors de la sainteté. Si Dieu réclame notre consécration, c'est son amour pour nous qui l'y pousse. Quoique nous ne puissions pas atteindre la sainteté sans la pureté, cependant la sainteté est beaucoup plus que la pureté. Celle-ci est une qualité simplement négative, tandis que la sainteté exige l'activité corporelle et mentale la plus intense dont nous soyons capables pour réaliser ici-bas la volonté de Dieu comme elle est réalisée dans le ciel. Notre sainteté est le résultat d'un contact spirituel intérieur avec Jésus, d'une communion intime, avec lui qui a vécu sur la terre une vie parfaitement sainte, qu'il reproduit en nous. Il est le cep, nous sommes les sarments. Il vit maintenant cette même vie glorifiée sur le trône du Père et il nous la communique. La grande doctrine de la sanctification, par la foi, nous enseigne que Dieu réclame de nous une consécration sans réserve et que lui seul réalise cette sainteté en ceux qui se confient en lui. Ce qu'il demande, il le donne à ceux qui croient. Quand notre cœur lui appartient, Dieu le remplit de sa vie. C'est là ce qui rend le cœur saint. Lorsque les séraphins adorent Dieu comme le saint, en se voilant la face et en répétant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel », ils proclament un des attributs les plus profonds de la divinité et ils entendent affirmer plus que les droits souverains de Dieu en tant que propriétaire de ces créatures humaines. En nous disant « Soyez saints comme je suis saint », Dieu qui nous a créés à son image, de peu inférieur à lui-même, nous révèle qu'il nous a créés pour que nous lui ressemblions. Essayons de découvrir ce qu'est la sainteté en Dieu. Elle est la plus glorieuse révélation de Dieu, elle est l'essence même de la personne de Dieu, et lorsqu'il est question de la sainteté des saints, nous avons la révélation la plus profonde du changement, par lequel leur nature, dans ce qu'elle a de plus intime, est renouvelée à l'image de Dieu. Saint en Christ. Note B. Remarque sur le mot saint. Le sens du mot hébreu traduit par saint, kadosh, n'est pas connu avec certitude. Il est possible qu'il provienne d'une racine, qui signifie briller. Ou bien d'une autre racine renfermant la double idée de nouveauté et de lumière. Ou encore, d'un vieux terme arabe, signifiant couper, séparer. Quelle que soit la racine exacte, l'idée maîtresse semble être non seulement celle de séparation, de mise à part, idée que l'hébreu exprime par d'autres termes bien précis, mais celle que l'objet séparé se distingue de tout autre objet, par la supériorité et l'excellence de ses valeurs. Dans son lexique du Nouveau Testament grec, à l'article consacré à l'étude du mot grec agio, Cromer montre que la notion de sainteté est une notion entièrement biblique. La conception de la sainteté de Dieu que nous donne l'Écriture, dit-il, quel que soit le rapprochement à faire dans la forme, est diamétralement opposée à toutes les conceptions grecques. Tandis que celle-ci, par elle-même, exclut chez les divinités païennes toute idée d'amour, la conception scripturaire au contraire, n'ouvre à nos esprits toute la réalité de son sens que dans le plus étroit rapprochement avec la notion de l'amour divin. Il est de toute importance de noter que nous devons et le mot et la pensée à la seule révélation.